Salut à toutes et à tous, curieuses et curieux, engagés, solidaires, amoureux, amoureuses du réséda de Jacquin et de la blanche colombe, soucieux du vivant, des unes et des autres. Vous avez choisi d'écouter l'onde curieuse parce que c'est bien et vous avez raison. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on détourne le bâton du pèlerin, on se remonte les manches et on passe à l'action environnementale avec le collectif Pétale 07 qui met en lien les associations, les organismes, les collectivités publiques dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et c'est Yann Sourbier, administrateur du collectif et cuisinier formateur au MAT 07, l'assaut du Vieil Odon, qui est venu jusqu'à nous pour nous en parler. Bonjour Yann.
Bonjour.
Mais avant cela, quelques actus locales et un point agenda. Avant de laisser la parole à Marie, bonjour Marie.
Salut.
Qui vient aujourd'hui encore nous faire nous donner quelques informations, quelques actus locales. J'aimerais vous faire entendre un petit son.
En train de faire là.
Ah, c'est moi.
Non, vous me lâchez. Vous me lâchez.
Oui, alors ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la prise de son qui est réalisée par le réalisateur du vidéaste de Pluriel. Merci à lui, j'ai repris les sons de ces images qu'il a réalisées donc hier sur le chantier de la basilique, enfin de l'édification de la basilique de Saint-Pierre de Colombier. Alors ce que vous avez reconnu après le chant, le supposé chant d'amour et les pelleteuses en arrière-fond, c'est des agressions, c'est une agression de la part de nonnes et des membres de la famille missionnaire de Notre-Dame de Notre-Dame de Saint-Pierre de Colombier. Donc je parlais de détourner le bâton du pèlerin, car oui, effectivement, les membres de la famille missionnaire de Notre-Dame à Saint-Pierre de Colombier sont détournés du droit chemin dans leur croisade pour poursuivre coûte que coûte l'édification de ce complexe religieux. Alors pour rappel, le chantier a repris hier, après qu'il ait été interrompu jeudi 12, après l'action des membres des amis de la Bourge. Alors, deux femmes se sont enchaînées à la pelleteuse, puisque la poursuite du projet menace de destruction le biotope d'une espèce protégée, le réséda de Jacquin. Les dirigeants de la famille missionnaire sont au courant de cela, hein, ils sont au courant de la présence de cette espèce protégée, mais ils continuent, et ainsi en continuant, ils violent l'article L411-1 du Code de l'environnement. Bref, le chantier a repris hier, malgré la demande des amis de la Bourge de suspendre le chantier jusqu'à une table ronde qui est prévue jeudi à 10h avec la préfète Sophie Élyséon. La préfète, les amis de la Bourge, le PNR, l'Office français de la biodiversité, l'Association nationale pour la biodiversité et la famille missionnaire. Et puis une décision préfectorale sera prise la semaine suivante. On note que la préfète avait demandé à la famille missionnaire de suspendre le chantier. Elle l'a demandé, mais par contre, elle n'a pas pris d'arrêté. Donc, pendant ce temps-là, les fanatiques, la famille missionnaire continue gaiement, enfin pas si gaiement que ça, puisque déjà hier, vous l'avez entendu via ce son, c'était très chaud. Puisque la famille missionnaire avait posé des barrières pour empêcher les militants écologistes de pénétrer sur le chantier. Les nonnes, pas que elles, mais enfin, elles étaient particulièrement offensives. Si vous pouvez voir ces images d'ailleurs sur Pluriel, je pense qu'elles ont été prises aussi par France 3 Région qui était sur place. Elles en sont venues aux mains, à pousser des militants écolos et pacifistes, à les plaquer au sol. Ce matin, rebelote, sauf que un militant a été poussé, blessé et a dû être évacué en ambulance. Le chantier est donc de fait suspendu, mais jusqu'à quand, pour l'instant, on n'en sait rien. Impunité, illégalité, violence de la part de ces théo-terroristes. On pourrait en rire si ce n'était pas réel, ici et maintenant en Ardèche. les associations, enfin l'association des Amis de la Bourge a besoin de vous, a besoin de soutien sur place. Si vous êtes sensible à cette cause, c'est maintenant qu'ils ont besoin de vous. Venez les relayer, venez relayer les militants, venez les soutenir. Voilà, pour essayer de maintenir la suspension de ce chantier jusqu'à jeudi. Yann, je pense que la famille missionnaire a besoin de vous pour les mettre dans le droit chemin de l'éducation à l'environnement, peut-être de l'amour du prochain, hein, puisque c'est...
De l'amour du vivant, oui, sûrement.
Oui, c'est ça, de l'amour du vivant. On en reparle après, on poursuit les infos avec Marie.
Salut. Je ne vais pas être beaucoup plus gaie, je suis désolée. Ah. Ouais, c'est pas... Hein? Mais c'est du concret, du réel. Donc pour ce soir, mardi 17 octobre, c'est témoignage à gogo. Alors, il est où le patron?
Oui, il est où le patron?
Non, bah, il est où le patron?
Voilà, oh mince, c'est une femme.
Pourquoi mince? Bon, bref. Donc, Vallon Pondarc à 18h30, rencontre avec Guylaine Trossa et Marion Boissier, qui sont agricultrices et co-autrices de la BD « Il est où le patron ?». Donc, c'est une BD témoignage sur les difficultés rencontrées par Guylaine et Marion à leur installation et le manque de légitimité qu'on leur a reconnue en tant que professionnelles. Parce que quoi? Eh bien, parce qu'elles sont femmes. Ben
non.
Si. Eh ben si, femmes et patrons, zéro.
C'est ça.
Pas zéro. Donc voilà pour le premier témoignage. Deuxième témoignage.
Et c'est dans le cadre d'un événement plus grand qui s'appelle Place aux femmes.
Ouais.
Et c'est à la médiathèque de Vallon, c'est ça?
C'est à Vallon-Pont-d'Arc.
C'est à Vallon-Pont-d'Arc. Oui, c'est ça, c'est à la bibliothèque de Vallon-Pont-d'Arc ce soir.
Voilà, oups, j'avais oublié.
Deuxième témoignage.
C'est ça, c'est Aubena au navire à 20h30,
oui.
Ce soir donc. C'est Un peuple, un documentaire d'Emmanuel Gras, sorti en février 2022. Je vous dis un peu ce que ça dit.
Ouais, le mouvement des Gilets jaunes.
Ouais, en octobre 2018, le gouvernement Macron décrète l'augmentation d'une taxe sur le prix du carburant. Cette mesure soulève une vague de protestations. Des citoyens se mobilisent dans toute la France. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. À Chartres, un groupe d'hommes et de femmes se rassemble quotidiennement. Parmi eux, Agnès Benoît, Nathalie et Alain s'engagent à corps perdu dans la lutte collective. Comme tout un peuple, ils découvrent qu'ils ont une voix à faire entendre. Donc on suit ces gens-là et c'est le documentaire.
Documentaire qui sera suivi d'une discussion au navire. C'est ce soir à quelle heure?
20h30. À Tueil, ce soir à 20h30 aussi, vous n'y arriverez pas à tout faire. Hein. C'est Les filles d'Olfa de Kauter Ben Hania.
Superbe film, vraiment.
Salle de la Vesprade. Donc, qui était en compétition à Cannes.
Ouais,
et c'est un témoignage, mais mêlé de fiction.
Oui, c'est un procédé créatif assez inédit. C'est-à-dire que...
Si tu dis ce que je vais dire, t'es pas
non,
cool.
Vas-y. Je te laisse.
Bah, vas-y, des fois, ouais. Donc, la vie d'Olfa, tunisienne et mère de 4 filles, aussi entre ombre et lumière. Et un jour, les 2 filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kauter Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l'histoire d'Olfa et de ses filles. C'est ce que tu disais?
Ouais, un film d'une grande complexité.
Ok. Ça dit ensuite, un voyage intime fait d'espoir, de rébellion, violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés.
Allez le voir aussi, mais c'est à 20h30 à Tueil.
Voilà. Alors, je continue à questionner. Je ne suis toujours pas si drôle que ça.
Non.
Un groupe de travail autour du livre de Sarah Schulman, Le conflit n'est pas une agression. Donc, c'est Salle Yggdrasil Auvence, ce soir 19h30.
Ouais.
Jusqu'à 21h30.
Oui, c'est les ateliers de Vivi qui reprennent au Vence et c'est toujours chouette. Donc le principe, c'est on prend un livre. Là, c'est quoi?
Le conflit n'est pas une agression. J'allais dire un petit peu des choses dessus. Voilà.
Le conflit n'est pas une agression. Je te laisse dire. Je te laisse dire. C'est juste sur le principe.
Oui, dis le principe.
Oui.
Non, c'est bien.
On parle. On s'empare du livre. On lit des extraits. On découvre le livre et on en parle et on échange autour de ces questions. Et là, voilà, ces questions. Et je pense qu'il y aura deux autres volets puisque c'est la première soirée de trois soirées. En tout cas, c'est annoncé comme ça.
Je n'ai pas lu le livre, mais dans ce qui était expliqué, ça m'a bien intéressée que, du coup, c'est un essai, ce livre, et elle revalorise la notion même de conflit, lui offre une valeur tant ontologique que symbolique. Et loin de constituer une agression, celle-ci doit être mise en avant comme façon d'entamer le dialogue entre les différentes strates constituant la société, en dépit des questions de nationalité, de classe sociale, de genre et de religion, par exemple. Tiens,
bien sûr,
il y en a qui se tapent sur la tronche, c'est pas forcément une bonne idée.
Ouais. C'est peut-être dans la grande tradition aussi de la philosophie qu'on appelle agonistique, c'est-à-dire il faut se... la démocratie, c'est pas forcément que du consensus, on y aboutit, mais c'est par un conflit qui est institutionnalisé, encadré, justement pour ne pas laisser place à la violence. La violence, c'est quand tout cela n'est pas encadré.
Ouais. On est un peu à l'agonie, comme tu dis en ce moment.
C'est vrai.
Alors, pour demain, quand même, je suis un peu moins glauque. J'ai le temps ou pas ? Non ?
Une petite.
Scène musique actuelle en territoire en Ardèche, donc la SMAC propose un concert au centre hospitalier Sainte-Marie. C'est An Eagle in Your Mind, 15h, et c'est gratuit. Un duo de musique du monde, Sophia Achibat et Raoul Canivet.
C'est gratuit.
Le style, c'est rock folk. Rock folk du monde. J'ai encore un.
Oui, vas-y.
Ok. À la Messicole. À Montpezat-sur-Boson, sous Boson. Eh oui. Je suis déboussée.
Ça arrive.
Donc, c'est à 17h30, c'est tout public, c'est un spectacle de marionnettes, c'est le manteau d'Akaki. Super. Une pièce poétique librement adaptée de la nouvelle Le manteau de Nikolaï Gogol. Et c'est la compagnie Le bruit dans la tête. Tout public à partir de 7 ans. Voilà.
Demain, 17h30, à la Messicole.
Voilà, solo sans filet pour 8 marionnettes à Gaines. Mais pas que à Gaines. Toutes marionnettes avec le marionnettiste.
Super. Merci. Bah, on finit quand même par un peu de culture pour nous réunir. Et puis, la musique aussi nous réunit un petit peu.
Chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur. Enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. Grand pour la vie.
Higelin, La croisade des enfants, c'est le choix musical de Yann Sourbier. Merci Yann de nous avoir fait entendre, en tout cas moi de m'avoir fait entendre ce Jacques Higelin que je n'avais pas entendu comme ça.
D'accord.
Merci. Mais oui, mais j'avoue, mon ignorance.
C'est très agréable à écouter. Tout est dit dans cette chanson.
Oui, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être le passer en boucle aux amis de la famille missionnaire.
Surtout en ce moment.
Oui. Yann, vous êtes ici non pas pour nous parler de ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier, mais pour le long travail, tous les chantiers que Pétale 07 déploie sur le territoire du Sud Ardèche. Alors d'abord, Pétale 07, qu'est-ce que c'est ?
Pétale 07, c'est un collectif de structures, souvent associatives, mais pas que, qui travaille sur ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et là-dedans, en fait, on intègre beaucoup de gens très différents, des gens qui ont des lieux comme Mésange et Libellule, ils ont une forêt dans laquelle ils font venir les enfants le mercredi, le Muséum de l'Ardèche, qui a un musée sur la géologie, le Vielodon, qui organise des classes découvertes. Et tous ces gens-là, en fait, le Krebs de Vallon-Pont-d'Arc, qui travaille sur les sports de pleine nature, les guides de randonnée en Ardèche, qui travaillent aussi à faire découvrir le territoire à aux vacanciers et puis aux Ardéchois. Et en fait, toute cette mouvance-là sont des gens qui travaillent sur, en gros, mieux comprendre le vivant, mieux comprendre les écosystèmes, l'environnement dans lequel on est, et surtout qui travaillent à plus de coopération entre les personnes, donc entre les élèves, entre les personnes, entre les institutions. Donc on travaille aussi au fait que pas mal d'institutions ont des dispositifs pour organiser des classes découvertes, des centres de loisirs, des centres de vacances, comme le parc, comme le département, l'éducation nationale, jeunesse et sport, le syndicat des gorges de l'Ardèche, l'agence régionale de santé. Tous ces gens-là sont des acteurs, finalement, de l'éducation à l'environnement, de l'éducation au vivant, mais ils n'ont pas de lieu où se rencontrer. Et du coup, il n'y a pas de lieu où on harmonise un peu tous ces dispositifs et où on est à l'écoute du terrain. Voilà, et donc Pétale s'est constitué pour à la fois regrouper tous les acteurs de l'éducation, donc tous ces éducateurs, et puis toutes ces institutions qui sont préoccupées de la problématique de la transition, du changement climatique, des projets alimentaires territoires, enfin toutes les questions qui touchent un peu à notre environnement, quel qu'il soit, pour qu'ils se rencontrent au moins deux fois par an et qu'ils prennent des décisions ensemble un petit peu plus cohérentes et un petit peu plus harmonieuses. Voilà, donc c'est notre double objectif en permanence.
Mmh. Vous travaillez donc c'est ça, sur à la fois le côté alimentaire, agricole et aussi éducatif. Ça, c'est vraiment une chose très importante, que ce soit l'éducation dehors, ce qu'on appelle l'école dehors, et en filigrane derrière tout ça, essayer de faire en sorte que la jeunesse soit porteuse elle-même de... Alors, je ne sais pas si on va parler de valeurs de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire, enfin, qu'elle soit elle-même vecteur, imprégnée par toutes ces valeurs.
Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a pas mal de jeunes qui veulent rester au pays, hein, c'est redevenu à la mode un peu de dire ça, voilà, et qui cherchent à créer leur emploi. Sauf qu'en fait, ils ont envie d'emploi qui a du sens, ils ont envie d'emploi où ils ont des responsabilités, de l'autonomie. Voilà, et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire est le secteur un peu où on cherche à faire en sorte que le travailleur, c'est un peu, vous disiez, c'est qui le patron, voilà, mais qu'au bout d'un moment, on ne sache pas trop qui est le patron, mais que chaque acteur de l'unité économique qu'on appelle l'entreprise soit responsable de ce qu'elle fait. Et du coup, avec AMSUD, là, on travaille sur ces questions de l'entrepreneuriat alternatif, l'entrepreneuriat en économie sociale. Voilà, et je pense que les jeunes veulent beaucoup plus coopérer maintenant. Et que ce soit dans l'économie sociale ou dans l'éducation à l'environnement, on ne fait pas simplement que rencontrer la nature, rencontrer l'écologie, c'est aussi apprendre à vivre ensemble. Et la coopération, c'est un des apprentissages incontournables du vivre ensemble.
L'actualité de Pétale 07, là, elle est vraiment multiple, justement sur tous ces champs, hein, qu'on a évoqués. Enfin, voilà, la jeunesse, l'éducation à l'environnement et l'agriculture, l'alimentation. Parlons d'abord d'un premier événement qui va avoir lieu jeudi. C'est le...
La plénière des tiers-lieux nourriciers.
Voilà, pardon, merci. Merci. vous me voyez galérer avec mes petites fiches.
Pas de soucis.
Qui n'en sont pas. Que va-t-il se passer jeudi ?
Eh bien, en fait, on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'en Ardèche, il y a pas mal d'endroits où on fait des ateliers cuisine, des ateliers jardin, des ateliers compost. Donc pour les enfants, les adultes, les familles. Voilà, et que ces lieux-là ne se sont pas mis en lien encore. Voilà, donc on s'est dit, mais il faut qu'on les mette en lien, il faut qu'on puisse communiquer ensemble sur des agendas pour qu'en fait les citoyens ardéchois sachent où c'est qu'il y a un atelier cuisine ce week-end, où c'est qu'on peut apprendre le jardinage, pour pouvoir aussi former les professionnels, parce qu'animer des ateliers cuisine, un bon cuisinier n'est pas forcément un bon animateur d'atelier cuisine. Voilà, un bon professionnel n'est pas forcément un bon formateur.
Un bon pédagogue.
Donc on s'est dit, il fallait aussi qu'on fasse monter en compétence tout le monde sur la question pédagogique, c'est comment on anime un atelier.
Donc concrètement, vous avez des formations.
Voilà, donc concrètement, auprès... jeudi matin, on va faire 6 ateliers pour partager en gros nos pratiques. Donc il y a 6 structures qui vont animer. Donc on va faire de la lessive avec du lierre, on va faire un atelier de cuisine, on va faire du compost. On va faire des bordures en branches de mûrier tressées. Voilà, on a plusieurs ateliers comme ça. Ce qui va nous permettre d'échanger sur nos pratiques. Et ensuite, on va rencontrer un tiers-lieu qui vient de près de Roanne, une ferme qui s'est constituée en tiers-lieu. Tiers-lieu, en gros, c'est des endroits, c'est pas l'école et c'est pas l'entreprise. Donc, c'est un endroit, en fait, un peu entre... Et c'est pas la famille. C'est pas chez soi. Donc c'est un endroit un peu extérieur où en fait on crée des lieux de rencontre. Beaucoup de tiers-lieux ont comme objectif de permettre à des gens de pas travailler seuls et donc d'avoir des espaces de travail, de coworking, on appelle ça, de travail en commun. Et puis au-delà, ben, en fait on se met à manger ensemble et puis on se dit tiens mais peut-être qu'on pourrait créer une petite coopérative pour acheter nos produits tous ensemble. Et puis tiens si on faisait un événement ce soir culturel sur la question de l'alimentation ou la question de faire venir des agriculteurs pour parler de leur métier. Voilà, et puis petit à petit ça devient un lieu où il y a quelqu'un qui vient s'installer pour faire une brasserie ou une boulangerie. Et donc ça devient des lieux un peu complexes, on appelle ça des assembliers, donc on assemble comme ça des choses qui normalement vont pas bien ensemble et qui finissent par être assez harmonieux parce qu'on va pouvoir y manger, on va pouvoir se former, on va pouvoir avoir des événements, on va pouvoir y travailler. Voilà, et donc on a réuni en gros les gens qui travaillent sur ces questions mais qui ont une porte d'entrée alimentation. On a un peu un débat en ce moment, est-ce qu'on est des tiers-lieux alimentaires, des tiers-lieux nourriciers, des tiers-lieux sur la question, en gros, du lien entre le jardin et la cuisine, des lieux où on va travailler l'alimentation locale et de qualité. voilà, on est dans toutes ces préoccupations-là. Pour le moment, on s'appelle tiers-lieux nourriciers. Voilà, puis ça nous va bien comme ça.
Et les tiers-lieux nourriciers, pour que les auditeurs se représentent bien, donc il y en a qui existent. On peut donner des noms, hein, parce que toutes ces initiatives, elles sont déjà en place, c'est maintenant, ça se fait.
Oui, ça existe depuis... Ben, Terre et Humanisme, par exemple, ça fait une dizaine d'années qu'ils ont un magnifique jardin où on va faire des stages de formation sur le jardinage, mais aussi sur l'agroécologie, mais aussi sur l'alimentation. Au Vielodon, nous, on fait des classes découvertes sur ces thèmes du jardin, du compost et de la cuisine depuis plus de 25 ans. À tout bout de champ, la ferme qui s'est créée à Aubenas en insertion, ils travaillent aussi ces questions. Et justement, il y a un brasseur qui vient de s'installer. Et il s'associe à une matériothèque, donc la ringarderie. Voilà, et c'est ces associations qui sont amusantes, c'est qu'en fait, des gens qui ont des préoccupations, qui ne sont pas sur les mêmes secteurs d'activité, mais qui ont des préoccupations en commun, qui s'associent. Voilà, et on va être jeudi à la ferme. Donc c'est curieux, c'est que derrière, au centre de la zone industrielle d'Aubenas, il y a une ferme, une ancienne ferme. Et donc il y a trois jeunes personnes qui ont décidé d'y faire un lieu où on pourra manger et où on pourra avoir des événements culturels et faire des ateliers. Donc en plus, on va faire connaissance avec elles. Et du coup, jeudi, on a aussi une ferme de Roanne qui s'est transformée aussi en tiers-lieu nourricier. Donc, qui va venir témoigner de ce qu'elle fait et de l'intérêt, je dirais, pour un territoire d'avoir des lieux comme ça où les citoyens peuvent venir se former. Parce qu'on se rend compte, on dit à tout le monde « Oh là là, mais il faut manger saisonnier !» Mais vous savez, quand pousse un artichaut, un oignon, un chou-fleur, voilà, il y a des choses, mais c'est pas si évident. Voilà, donc ça s'apprend. Il faut des lieux pour l'apprendre. Et ensuite, une fois qu'on sait que l'artichaut, il va venir en hiver... Ah mais ça se cuisine comment? Et donc, il va falloir apprendre à cuisiner. Voilà, et c'est toute cette démarche qu'on essaye de faire, et ça intéresse beaucoup les collectivités, puisqu'en ce moment, on a des projets alimentaires de territoire un peu partout en Ardèche, qui s'intéressent en gros à la sensibilisation et à l'éducation des citoyens.
En fait, c'est œuvrer à redonner de l'autonomie aux citoyens, aux collectivités, pour qu'elles se réemparent et même qu'elles sachent quoi faire, quand faire, comment faire ?
Exactement, oui, oui. En fait, on sort de 50 ans, en gros, où les plats transformés, même ultra transformés, ont pris un peu la place dans notre alimentation. C'est vrai que c'est plus facile de décongeler une pizza que de se faire cuire un gratin de chou-fleur. Mais on peut réapprendre le gratin de chou-fleur. Et nous, on voit beaucoup dans les 25-35 ans de jeunes qui nous disent « Mais réapprenez-nous à travailler les produits bruts, voilà, et qu'on sache se faire à manger, quoi. » Et qu'on arrête de s'empoinçonner avec l'ultra transformé. Et le monde de la santé nous aide beaucoup. On est en lien beaucoup avec l'Agence régionale de santé qui travaille sur ces questions-là aussi et qui montre maintenant qu'il y a suffisamment d'études pour voir qu'en fait, bien se nourrir, en gros, c'est des produits de qualité, locaux, bruts, que l'on transforme soi-même. Voilà, et où on met un maximum de diversité dans ce qu'on mange. Et là, on est à peu près sûr d'être en bonne santé, quoi.
Votre objectif, c'est pas justement de bipolariser le débat en disant oui, il faut absolument manger bio, etc. Et si vous ne produisez pas ou si vous ne mangez pas bio, ce n'est pas bien. C'est au contraire de donner les outils pour permettre les outils techniques, c'est ça, notamment techniques, logistiques, le savoir, pour permettre de passer à quelque chose de plus...
Absolument. En fait, il faut jamais dire « il faut ». Donc, puisqu'en fait, toutes les injonctions, ça fonctionne pas. Il faut que chacun de nous, et c'est comme ça que chacun de nous a avancé, comprenne d'où viennent les problèmes, d'où vient la situation dans laquelle on est, et ensuite qu'il faut qu'il y ait des petits pas positifs. Il faut qu'en fait, pour pouvoir évoluer, il faut qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Moi, quand je discute avec mes copains agriculteurs et qu'ils me disent « Oh là là, mais le bio, c'est compliqué, c'est trop cher et tout », en fait, on ne leur a pas appris à produire autrement. Et en fait, ils ne sont pas forcément contre le bio, mais ils disent « Si je passe en bio, je vais perdre de l'argent, je vais perdre du rendement, je vais travailler plus ». Ok, mais en fait, il y a quand même plus de 12% des agriculteurs qui sont passés en bio. Et peut-être qu'il faudrait étudier un peu mieux comment transmettre ces savoir-faire à des gens qui sont un peu en questionnement, plutôt que de dire, voilà, le bio, c'est bien et le pas bio, c'est pas bien. Voilà, mais le bio qui vient d'Argentine, c'est pas bien. Donc, en fait, on peut pas dire que le bio, c'est mieux. C'est voilà. Ce qui est intéressant, c'est de diminuer les pesticides, de diminuer les herbicides, de diminuer les produits chimiques. Mais en fait, il n'y a pas de blanc et noir.
Bien sûr.
Voilà, et donc nous on travaille avec notamment des associations d'agriculteurs, par exemple avec les CIVAM, qui font beaucoup d'éducation populaire, d'essayer de vulgariser en gros le travail des agriculteurs, qu'on comprenne le rôle de l'agriculteur et c'est quoi son travail, et qui sont beaucoup sur ces questions justement de petit à petit faire de la qualité, faire du local. Voilà, et puis de l'autre côté, on a les cuisiniers de collectivité, maintenant avec la loi Egalim, à qui on dit attention, 50% de produits de qualité.
La loi Egalim.
La loi Egalim, elle s'est mise en place il y a 2-3 ans maintenant. Et elle impose aux cuisines de collectivité de passer 50% des produits en qualité. Mais qualité, ça veut dire label rouge, ça veut dire AOC, AOP, voilà, dont 20% de bio. Voilà. Mais il n'y a pas d'injonction sur le local. Sauf qu'il y a des cuisines de cantine actuellement qui sont déjà sur le local, qui sont déjà préoccupés de ces questions-là, voilà, et qui ont aussi envie d'aller vers la qualité. Ça veut dire que derrière, il faut qu'on définisse en gros c'est quoi ces produits de qualité, et puis qu'il y ait des plateformes, enfin qu'il y ait des producteurs et des plateformes pour acheter ces produits. Donc chaque fois qu'on met un doigt dans l'engrenage, en fait, il y a toute une chaîne de responsabilité et d'organisation de filières derrière qu'il faut mettre en place. Et Galim, il dit aussi un plat végétarien par semaine. Mais un plat végétarien par semaine, en école hôtelière, on n'a pas appris à faire des plats végétariens, parce que la gastronomie, elle n'est pas végétarienne. Enfin, elle le devient, mais au départ, ce n'est pas ça. Et puis, en fait, ce qu'on dit aux cuisiniers, quand vous faites un plat, une blanquette de veau, vous ne dites pas c'est de la viande, vous dites c'est de la blanquette. Mais quand vous faites une lasagne aux épinards, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est un plat végétarien, parce que végétarien, c'est triste. Dans l'esprit des adolescents, végétarien. Non, il faut dire végéta plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement bon que ça serait dommage de mettre de la viande. Voilà, et il faut complètement revoir la culture de la cuisine de collectivité. Et il y a des cuisiniers qui sont très en avance sur ces questions. Donc nous, on organise ce qu'on appelle des échanges de pratiques pour que les cuisiniers qui font des plats végétariens, qui n'ont pas de succès, qui sont beaucoup gaspillés, puissent apprendre à vous envisager le plat végétarien autrement et qui finalement il passe facilement. Donc on travaille beaucoup nous les légumineuses, les céréales avec des gâteaux par exemple où les enfants vont manger des pois chiches ou des haricots blancs sans s'en rendre compte et où après on pourra leur dire après ben voilà c'était des légumineuses et c'est bon pour ta santé, si t'as mangé ça avec du pain t'as tous les acides aminés que la viande t'aurait amené. Voilà, donc c'est ce travail de fond un peu qu'il faut faire tous azimuts. Et donc, dès qu'il s'agit d'éducation, c'est vrai que Pétale 07, c'est un peu notre art de vivre. C'est quels que soient les sujets, c'est comment on va éduquer sur ces questions. Et qu'on soit sur la cuisine, le compost, le moustique-tigre ou les sports de pleine nature, chaque fois, il va falloir éduquer.
Là, on a parlé pas mal du grand public, du public, des enfants, on a parlé des professionnels, etc. On n'a pas encore vraiment parlé des collectivités territoriales, des collectivités publiques. Est-ce qu'elles sont aussi réceptives à justement cette transformation? Est-ce qu'elles sont même en demande? Comment la relation se passe avec Pétale 07?
Elles y sont sensibles, d'autant plus que les électeurs commencent à y être très sensibles. Et je crois que les projets alimentaires de territoire qu'il y a actuellement sur l'Ardèche sont animés par des animateurs qui vont très très loin dans la réflexion et qui invitent les élus à réfléchir à toutes ces questions et à les mettre en lien. Moi, je trouve qu'il y a un travail admirable qui est fait actuellement. Donc les élus comprennent aussi tous ces enjeux de plus en plus. Et nous sollicite donc pour qu'on mette en place, mais là en ce moment on travaille beaucoup sur la question du compostage.
Puisqu'il va y avoir une loi, oui, on le rappelle, à partir du 1er janvier 2024.
On ne pourra plus mettre ses biodéchets dans la poubelle grise, donc il va falloir que tout le monde composte ou que l'on collecte pour composter. Voilà, sur la communauté des Gorges de l'Ardèche, ils nous ont dit que tiens, un tiers-lieu nourricier itinérant, ça pourrait être intéressant, parce qu'on n'a pas forcément au même endroit un jardin pédagogique, une cuisine pédagogique et un composteur pédagogique. Mais on peut peut-être avoir un endroit, une cuisine, où on peut inviter des citoyens. Là, samedi, on va faire une soupe à la cuisine de la cantine scolaire de la Gorse, par exemple. voilà, mais où il y a effectivement un composteur, mais qui n'est pas un composteur pédagogique, qui n'est pas équipé pour ça, et où il n'y a pas de jardin pédagogique. Voilà, donc peut-être on va faire la cuisine et la gorse, puis après on ira au jardin de Vallon-Pont d'Arc faire un atelier jardin, et puis on ira ailleurs faire un atelier sur les cosmétiques. Voilà, et l'idée c'est qu'en fait il y ait des lieux accessibles aux citoyens pour pouvoir s'éduquer un peu partout dans les communautés de communes. Et nous, c'est ce qu'on essaye à travers nos tiers-lieux nourriciers de mettre en place là sur le sud Ardèche. Mais on sait qu'on a des copains dans le nord Ardèche et dans le centre Ardèche qui travaillent aussi ces questions. Dans les vallées de Lérieux, il y a des projets absolument formidables sur l'alimentation.
On quitte un moment l'alimentation, il nous reste juste quelques instants pour parler d'un autre projet. Alors il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de projets à destination des professionnels, mais on a parlé justement de l'éducation auprès des plus jeunes. Il y a tout un travail qui est fait autour de l'école dehors. J'aimerais que vous en parliez un peu.
Les pays scandinaves, le Québec, le Canada, l'Angleterre par exemple, sont très très en avance sur nous là-dessus. C'est qu'en fait, les enseignants ont compris que de temps en temps, il fallait sortir les enfants de l'école et qu'en fait, on pouvait apprendre les maths, le français, l'histoire géo en étant dans la nature. Mmh. Voilà, et donc il y a tout un mouvement en France qui s'est mis en route là-dessus. Sauf que toujours pareil, on n'a pas appris ça à l'école normale. En fait, les professeurs n'ont pas appris à enseigner dehors. Voilà, et l'éducation nationale, elle a un petit doute. C'est qu'en fait, si on met les enfants dehors, est-ce qu'ils vont apprendre les apprentissages fondamentaux? Donc les maths, le français, enfin savoir lire, écrire, compter. Et donc là, on s'est mis en lien avec des universitaires, des chercheurs, donc pour suivre en gros les enfants et les enseignants quand ils sont dehors. En général, ils sont accompagnés par un éducateur à l'environnement. Et pour voir en gros, est-ce que ça facilite les apprentissages de base? Voilà, et donc on sait que oui. Parce qu'il y a des études qui ont été faites au Québec depuis longtemps, mais on est en train d'essayer aussi en France d'impliquer l'éducation nationale, les chercheurs, les enseignants et les éducateurs à l'environnement, avec les parents et les enfants, sur cette question de éduquer dehors, comment ça marche. Voilà, et donc il y a des enseignants, mais par exemple, tous les mardis après-midi, elles vont faire cours dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. En fait, il n'y a pas de mauvais temps, il y a des mauvaises tenues vestimentaires. Voilà,
et non adaptées.
Non adaptées. Voilà, et donc on travaille aussi et on espère que les résultats de la recherche devraient arriver courant 2024.
Mais en attendant, Pétale 07, et depuis quelques années, notamment avec le parc naturel régional, met à disposition aussi des animateurs pour aider, accompagner les professeurs des écoles, voilà, dans 5 classes, si j'ai bien compris, en tout cas cette année 2023-2024, pour le parc naturel régional. Donc c'est...
Voilà, et suivi donc par la chercheuse qui... Et mercredi, c'est demain. Voilà, il y a les sorties des 4 saisons, donc on invite tous les enseignants qui le souhaitent à vivre une journée de classe dehors, donc avec les éducateurs à l'environnement. Et on fait ça régulièrement, donc avec nos amis de la Drôme d'ailleurs aussi, une fois par an. Voilà, pour échanger sur nos pratiques, dire toi comment tu mets en place, par exemple, tu arrives dehors, comment tu mets en place les toilettes. Voilà, comment tu fais en sorte que les enfants, ils se lavent les mains avant de goûter. Voilà, c'est des choses simples, mais si on ne les apprend pas, ben, voilà, on ne sait pas les faire. Donc chacun, en gros, enseigne aux autres comment il fait, et ça permet d'avancer tous ensemble et de se professionnaliser.
C'est très très riche pour tous les participants. Merci beaucoup, Yann.
C'était un plaisir. Merci à vous.
N'hésitez pas, vous aurez toutes les informations sur le site Pétale 07, qui est très très bien fait. Donc merci Marie pour tes infos, merci donc à nouveau Yann, merci Sylvain. Avant de se quitter, restez sur Fréquence 7 puisque la programmation continue. Alors tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que moi je n'ai toujours pas compris entre les semaines 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc
tu en as 5 alors.
Non mais ce n'est pas possible. Drôle de dame, est-ce que c'est bien tout à l'heure à 13h? Tu ne sais pas, on ne sait pas. Drôle de dame, peut-être, à 13h. À 15h, évidemment, le Telex, c'est vous qui donnez vos messages d'amour, vos événements sur le Telex. À 17h, c'est la rediffusion de L'Onde Curieuse. À 18h, Polymix et la voix off. À 20h, non. Et à 21h, Metal Zone. Oui, merci. Nous, on se retrouve jeudi pour une prochaine onde curieuse, une onde curieuse littéraire, où on entendra Frédéric Ploussard, l'auteur du dernier Tout Blanc. Merci, bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir. Merci.